présenté, vous vous souvenez la semaine dernière, je pense que la semaine dernière ou il y a deux semaines, on avait lancé un appel pour trouver un logement d'un beau couple qui s'en venait de la France. Et puis, comment Dieu a béni. Eh bien, le couple de la France est arrivé, ils sont ici ce matin. Voulez-vous vous lever? On aimerait vous accueillir, là, Basile et Claudine. Bienvenue au Québec. On m'a dit que ça prenait quelques mois à s'habituer à l'accent du Québec. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop vite, mais je parle assez vite. Ah, quelle belle matinée, un bon temps. On va prier. Seigneur, nous voulons te remercier tout d'abord à ce service de ce matin, ces beaux cantiques de louanges, et nous voulons te louer, te bénir et te remercier. Merci pour le premier service et ces beaux cantiques qu'on a eu de louanges et la façon que tu as parlé à nos cœurs par ta parole. Et ce matin, nous te demandons pour que ce deuxième service, ton Esprit Saint, puisse parler à nos cœurs. Ah, Seigneur, nous nous tenons près de cette eau vive et nous voulons que tu puisses mettre cette eau dans nos cœurs et car nous savons que c'est auprès de toi que se trouve la vie. Parle à nos cœurs ce matin par ton Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, si Bill Gates était ici, vous savez qu'il est multimilliardaire, et si Bill Gates était ici, il vous faisait une offre. S'il vous disait, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous demanderiez? Nouveau bâtiment, hein, c'est la même chose qu'ils ont dit au premier service, nouveau bâtiment. Il va falloir rattraper le temps perdu un peu, Marc, là, puis travailler sur le comité de bâtiment. Avec un nouveau système de son, hein? J'allais vous demander, avez-vous des besoins? Amen. C'est bon. Oui? Une quoi? Windows Podbug. Oh, OK. Je pense que tu travailles les ordinateurs, toi, hein? Oui. Eh bien, à plusieurs reprises, la Bible affirme clairement que Dieu a promis de prendre soin de tous vos besoins. Vos besoins émotionnels, financiers, physiques, spirituels, relationnels, chaque besoin de votre vie. De fait, l'un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Jireh, qui signifie l'Éternel pourvoira. C'est la façon propre à Dieu de nous dire, « Je suis le Dieu qui pourvoit à tes besoins. » À maintes reprises, Dieu dit, « Je vais pourvoir à tes besoins. » Dieu nous fait une promesse dans Philippiens 4, 19, et voici ce qu'il dit. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Maintenant, Dieu ne dit pas, « Dieu pourvoira à tous vos besoins. » De sa richesse, mais selon sa richesse. En d'autres mots, Dieu est riche et il donne selon sa richesse. Maintenant, soulignez le mot « tout ». Dieu pourvoira à tous vos besoins. Quand on parle de tout, tout, ça veut dire quoi? Ça comprend quoi, tout? Total, hein? Tout! Ça comprend tout. Alors, le problème est ceci. Soyons honnêtes. Tu regardes autour de toi, et de toute évidence, le besoin des autres n'est pas à 100% rencontré. Honnêtement, là. En réalité, nos propres besoins ne semblent pas toujours être rencontrés. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce que Dieu ment? Pourquoi mes besoins ne semblent pas toujours comblés? Bien, regardez bien ceci. C'est que la Bible dit qu'avec chaque promesse vient une condition. Je ne sais pas si tu connais les ordinateurs. Ma femme veut absolument rien savoir des ordinateurs. Ça ne l'intéresse pas du tout. Elle ne veut rien savoir de ça. Je ne suis même pas capable de la faire asseoir pour peser sur « on ». Elle ne veut rien savoir. J'ai beau lui dire, chérie, regarde le beau modèle. On s'en va à Costco. Hein? Puis tout de suite, en rentrant à Costco, tout ce que tu vois, c'est des ordinateurs, vrai? Et ça, c'est, hein, puis nous autres, on est là, on rentre, là, tu sais, puis là, je suis là, je rentre. Puis tout de suite, c'est plus fort que moi, ma tête tourne pour voir les nouveaux modèles qui viennent de sortir. Ma femme, boum! Bye, mon ami, elle ne veut rien savoir, les ordinateurs. perte de temps totale, hein? Bien, ceux qui travaillent un petit peu avec les ordinateurs savent que lorsque tu envoies un email, tu as l'option de pouvoir envoyer un attachement avec. Vous comprenez ce que je veux dire, là, tu sais, c'est des petits documents que vous collez après. C'est un peu comme si tu envoies une lettre et tu envoies quelque chose avec, là, tu sais, bon. C'est ça, pour ceux qui n'aiment pas les ordinateurs comme mon épouse. Bon, bien, c'est la même chose avec les promesses de Dieu. Vois-tu, à chaque fois que Dieu te fait une promesse dans les Écritures saintes, il y a un attachement qui vient avec. C'est une condition. Et l'une des conditions pour que la promesse se réalise, que Dieu puisse pourvoir à tous tes besoins, la promesse vient avec un attachement, et cette condition, c'est quoi? Tu lui fasses confiance. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Plus tu fais confiance à Dieu, plus Dieu pourra rencontrer tes besoins, les besoins de ta vie. Mais moins tu lui fais confiance, moins Dieu pourra rencontrer les besoins de ta vie. Ça marche comme ça dans les Écritures. La Bible dit clairement que la foi fait toute la différence. D'ailleurs, nous lisons dans Matthieu 9, 29, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Dieu dit, « C'est toi qui vas choisir comment je vais te bénir. Je mets ça entre tes mains. C'est toi qui vas décider. C'est selon ta foi. Tu choisis combien de besoins je vais rencontrer dans ta vie. Plus tu me fais confiance, plus je serai en mesure de combler tes besoins. Mais moins tu me fais confiance, moins je serai capable de rencontrer tes besoins. Tout est là. Alors la question inévitable est comment puis-je apprendre à faire plus confiance en Dieu afin qu'il rencontre tous mes besoins? Comment puis-je apprendre à avoir plus de foi? Vous savez, la foi, c'est un phénomène tellement intéressant. La foi, c'est comme un muscle. Faut que ça se travaille. Ça signifie qu'elle se développe à mesure qu'on s'en sert. Plus tu te sers d'un muscle, plus il se renforcit. Je le sais, il y a quelques années, j'ai commencé à m'entraîner. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas entraîné. J'avais recommencé à m'entraîner. J'étais allé au Énergie Cardio. On a déménagé à Rive-Sud. J'ai dit, hey, là, je me prends en main, je m'entraîne. Alors, je suis allé à Énergie Cardio, à McMasterville. C'est tellement beau. T'es en train de t'entraîner, t'as les tapis roulants, là, puis t'as les fenêtres, grosses fenêtres, hein, du plafond jusqu'au sol, c'est rien que des fenêtres. T'es en train de t'entraîner, tu cours sur le tapis roulant, puis qu'est-ce que tu vois comme paysage? C'est le Mont-Saint-Hilaire. Hey, c'est toute beauté. Fait que tu t'entraînes, tu cours, puis j'ai commencé une couple d'années, on est arrivé à Rive-Sud, on commence à courir. Le premier matin, tu sais, j'étais tellement content, je m'en vais, je suis tout déterminé, j'embarque sur le tapis roulant, je commence à courir, puis tu sais. Puis là, tu sais, ça commence, t'es en forme. Ça n'a pas pris de temps. Puis là, tu veux pas que ça paraisse, tu veux pas que personne te voit, tu sais. Tu es là, puis ça donne toujours qu'il y a d'autres tapis sur le côté, puis ce sont tous là, puis c'est des athlètes qui s'installent à côté. Ça fait peut-être 10 ans qu'ils s'entraînent, puis là, ça court. Là, tu es là, tu es en train de courir, tu es en train de crever. Là, tu cours, tu as chaud, tu es tout mouillé, la chandelle est mouillée. Là, tu cours, puis là, je me suis aperçu, mon ami, ça va faire au moins une demi-heure, je m'entraîne, je regarde, ça faisait 2 minutes 50. Alors, j'ai dit, je suis vraiment pas en forme. Et puis là, j'ai commencé 10 minutes, là, j'étais content, 15 minutes, 20 minutes, là, j'ai rendu 30 minutes. Puis pas juste ça, l'autre jour, et cette semaine, j'étais tellement fier de moi, tellement content. J'ai commencé, il y a une couple d'années, à faire des bench press. Tu sais, t'es couché comme ça, puis tu mets le poids, puis dans le terre, puis tu lèves. Puis, tu sais, là-bas, il y a toujours pas beaucoup. L'énergie cardio, ils ne sont pas spécialisés vraiment là-dedans, mais il y a toujours des gars, des monsieur muscles. Tu sais, ils s'en vont là, des gros bras, puis ils se promènent toujours devant le miroir, tu sais. Puis ils passent leur temps à se regarder dans le miroir, tu sais. Fait que là, c'est évident, il y a des gars qui prennent du bench press avec la barre à plier un petit peu. Des grosses plaques, puis ça. Moi, j'ai commencé avec des petites plaques, tu sais. Et puis, j'étais fatigué, j'étais épuisé, puis tout ça, tu sais. Mais je disais, ça n'a pas de bon sens. Je n'en ai pas fort. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais cette semaine, après une couple d'années, j'étais assez fier pour la première fois depuis bien des années. Hey, j'avais 23 ans quand je faisais ça la dernière fois. Et hey, cette semaine, pour la première fois, j'ai dit, là, je passe à travers la plaque, j'y vais. J'ai mis un 45 livres, mon ami. Chaque barre. Tu sais, ça fait gros, hein? J'aurais pu mettre un 20 puis deux 10. Mais non, tu prends la grosse, tu sais. C'est sûr. Voyons, on dort, tu sais. Tu veux impressionner, tu sais. Fait que tu prends la grosse plaque, là, tu sais, puis. Ah! Là, j'ai commencé à lever, puis ça allait pas pire. C'est bien. Et je suis revenu chez nous, je me sentais comme un homme. Et là, je me sentais fort. Je suis allé voir ma femme, j'ai géré. Ça va? Mais là, j'ai dit une chose à ma femme, j'ai dit, chérie, je suis tellement content parce que là, j'ai dit,
Et sais-tu, je commence à être en forme. Emmenez-en l'ouvrage. Et là, je commence à être en forme. Ça fait une couple d'années, là. Mathieu, ça va, on est employé pour faire des toitures, là. Appelle-moi, là, je te dis, je me sens en forme, à pelleter des roches, là. Non, je te dis, j'étais content, je me dis, vois-tu, un muscle, ça se travaille. C'est comme ça, la foi. La foi, là, si tu t'en sers pas, c'est pas en forme. Spirituellement, si tu ne te sers pas de ta foi, c'est comme là, là, c'est pas fort, tu sais. Puis moi, vraiment, qu'il y a un petit effort à faire, une petite épreuve, quelque chose, tu es là, t'es essoufflé. Alors, évidemment, tu veux connaître le truc pour renforcer ta foi. C'est un muscle. Alors, un muscle, plus que tu t'en sers, plus qu'il devient dur, hein? Plus qu'il est en forme. Bien, imagine-toi donc, les Écritures, Dieu nous donne les moyens pour renforcer ton muscle. Veux-tu savoir comment est-ce que, qu'est-ce que tu as besoin pour que ta foi soit encore plus forte? On l'a dans les Écritures saintes. C'est juste là. 1 Pierre 1,7. Il dit, « Les diverses épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi. » Eh bien oui, les épreuves. Ça, c'est ton cardio. Les épreuves, les tests qui viennent dans ta vie, c'est justement ce bicycle, ce vélo de montagne que tu as besoin, que ta foi a besoin pour renforcer, pour devenir plus fort, pour relâcher les bénédictions de Dieu et qu'afin que Dieu puisse rencontrer tous tes besoins. Alors, Dieu va t'envoyer ces épreuves dans ta vie, c'est des tests de foi pour étirer le muscle de la foi. Ce sont des épreuves, des tests qu'on a besoin pour renforcer. Alors, ce matin, on a besoin de regarder 4 épreuves courantes qu'on va avoir dans notre vie. Peut-être que vous êtes dans une de ces 4 épreuves-là en ce moment même, alors qu'on se parle. Peut-être pas. Laissez-moi vous donner une nouvelle. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous n'êtes pas dans une de ces 4 épreuves-là ce matin, je peux vous garantir que ça va vous arriver. Parce que vous avez besoin de vous entraîner sur le plan spirituel. C'est évident que Dieu va permettre que vous puissiez passer à travers ces 4 tests dans votre vie pour exercer votre foi. C'est absolument impossible que vous ne passiez pas à travers ces 4 tests-là. Parce que c'est là qu'on va travailler votre foi. Premier test. Le test de la pression. Avez-vous de la pression? Avez-vous du stress? Le premier test. Le test de la pression. Le test de la pression pose la question, comment vais-je gérer le stress? Aurais-je vraiment confiance en Dieu ou en moi? Psaume 55, nous lisons ceci, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu dit, je veux que tu te tournes vers moi lorsque tu es dans le trouble. C'est ce que je veux. Honnêtement, on fait tout pour éliminer le stress, hein? On fait tout pour ne pas être sous pression. Aussitôt qu'on a de la pression, on veut fuir, on n'aime pas ça. On va concocter un paquet de plans pour essayer de sortir du stress. Des fois, on va téléphoner un ami. Tout de suite, on sent la pression. On va téléphoner un ami, on va commencer à se plaindre. On va commencer à parler de tout ça pour essayer d'avoir, de soulager notre stress. Des fois, même, la façon, ce qu'on fait, c'est on va aller manger. Êtes-vous comme ça, vous? Êtes-vous quelqu'un que, allez-vous manger du, ce qu'on appelle en anglais du comfort food? Hein? La nourriture de réconfort. Tu as du stress, là, tu vas aller manger. Hein? Tu manges quoi? Chocolat? On mange quoi? Des chips. Quoi d'autre? On mange nos émotions, hein? C'est quelle autre nourriture qu'on pourrait manger? Pâtisserie. Michael, tu manges les carottes. Je suis fier de toi. OK. Oui, OK. Je suis fier vraiment de toi, Michael. Oh boy. Eh bien, savez-vous qu'ils ont fait des recherches là-dessus? Du comfort food. Imaginez, ils ont fait des tests, puis il y a vraiment des professionnels ont fait ça, puis ça a été auprès de 1005 consommateurs pour savoir c'était quoi ta nourriture de compensation, ta nourriture de réconfort. C'est quoi? Et là, ils ont essayé de déterminer aussi, est-ce que c'est différent pour les hommes et les femmes? Est-ce que c'est différent pour les hommes et les femmes? Savez-vous, sans aucune différence pour le premier rang. Le premier rang, celui qui arrive en premier quand on a la pression, puis on jette sa nourriture, le premier choix. Savez-vous c'est quoi? Première chose! Hommes et femmes, les deux, aucune différence pour le premier. Ah, fin! La crème glacée!
Imagine-toi donc, les commerçants de crème glacée font jamais faillite parce que, ben, je devrais pas dire ça, mais en tout cas, je devrais pas faire ça. Non, c'est vrai que je devrais pas dire ça, mais en tout cas, parce qu'il y a une affaire, c'est que plus que tu as, même si tu tomberais en récession demain matin, les gens vont quand même manger la crème glacée. Pourquoi? C'est du comfort food. C'est de la nourriture de réconfort. Ça change au deuxième rang entre les hommes puis les femmes. Pas pire. Quand vous autres, les femmes, vous êtes sous pression, vous vous jetez sur quoi? Non! Je te dis! Ouais, c'est vrai que t'as beaucoup de chocolat, chérie. Hein? Biscuit! Rappelle-toi, chérie, petit coq. En deuxième rang, ça vous c'est... Ben, pour les hommes, ça vous c'est quoi? Camille, tu parles à ton gars après-midi. Ah, oh, c'est Popette, t'as vu ça avec Popette? La pizza! Pizza dress! Ben oui, c'est sûr. Écoutez bien ceci, le professeur de marketing de l'Université du Illinois, qui dirige le laboratoire UI Food and Brand Lab, définit une nourriture de réconfort comme un aliment spécifique consommé dans une situation spécifique pour obtenir un réconfort psychologique. Regardez bien ceci. Un article intitulé « Le besoin de nourriture de réconfort est peut-être une tentative du corps pour mettre un frein au stress chronique. » Regardez bien ceci. Des chercheurs de UCSF ont identifié un système de réaction biochimique chez les rats qui pourrait expliquer pourquoi certaines personnes ont besoin de nourriture de compensation. Ce serait physique, biologique, comme le chocolat, les chips, les biscuits, cheeseburger. Quand ils sont atteints d'un stress, des carottes, hein? Quand ils sont atteints d'un stress chronique, la découverte publiée dans la première édition de Proceedings of the National Academy of Sciences met l'accent sur une hormone, et l'humain, ça s'appelle le cortisol, qui joue un rôle clé dans le système de réaction au stress. Dans leur étude, les chercheurs ont déterminé que 24 heures après l'activation du système de stress chronique, les hormones poussent les rats à avoir des comportements à la recherche du plaisir qui comprend de manger de la nourriture riche en énergie. Fort! Quand tu es sous stress, il y a comme des hormones qui donnent un ordre au corps, va manger. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la conclusion de la recherche. Voici ce qu'ils disent. Voici ce que dit le docteur Picoraro de l'Université de Californie. Il dit, à court terme, si vous vivez un stress chronique, ça pourrait être profitable de manger et dormir un peu plus pour vous calmer, peut-être même au risque de prendre un petit peu de poids. Mais chercher une solution à long terme dans la nourriture de réconfort, plutôt que de régler la source de stress ou de votre relation avec la source du stress, sera mauvais pour vous. En d'autres mots, ce n'est pas la solution à long terme. Certainement, ça apporte un certain soulagement, mais ce n'est pas la solution à long terme. La nourriture de réconfort ne fonctionne pas à long terme. Pour baisser son stress, certains vont magasiner, d'autres vont regarder la télévision. Nous avons tous, honnêtement, nos petits mécanismes de défense contre le stress. Et malheureusement, vient souvent au dixième rang Dieu lui-même. Dieu dit, moi, je veux que tu te tournes vers moi. Dieu dit, lorsque tu es sous stress, viens moi. Tourne-toi vers moi. Dieu sait qu'on a des besoins légitimes dans notre vie. Dieu sait qu'on a des besoins qui ont besoin d'être rencontrés, mais le problème relève très souvent qu'on est pressé, on n'attend pas que Dieu emmène ou accomplisse sa volonté, son plan dans notre vie pour nous soulager du stress qui se trouve dans notre vie. On veut une solution facile, tout de suite, on veut remédier tout de suite au problème. Et on fait ça régulièrement. On va comme court-circuiter la volonté de Dieu et la bénédiction de Dieu dans notre vie en se jetant sur des solutions faciles et rapides parce qu'on veut être soulagé temporairement. On n'attend pas que la volonté de Dieu se réalise dans nos vies. Jérémie 2,13 dit, « Mon peuple a commis deux péchés. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Moi, je suis allé en Israël Et je les ai vus, les citernes. C'est immense, c'est gros, c'est rond, et c'est, ça peut être 30 pieds, 50 pieds profond. C'est immense, tout avec des petites roches, des petites pierres. Et c'est très, très bien fait, c'est des citernes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça nourrissait le peuple d'Israël à l'époque de l'Antiquité. Puis moi, j'y vais, puis je regarde, puis il n'y a plus d'eau. C'est sec. Dieu est en train de dire, moi, là, j'ai pas de crevasse. Moi, j'ai de l'eau vive éternelle. Et vous m'avez abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, vous vous êtes creusé des citernes et des citernes crevassées. Imaginez pour un seul instant que vous êtes en plein dans le désert pendant 2 jours, vous marchez, 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 aucune nourriture, rien à boire pendant plus de 2 jours. Là, tout d'un coup, en plein milieu du désert, votre langue est épaisse, desséchée, vous avez soif, vous avez des crampes au ventre, vous avez désespérément besoin de boire de l'eau. Et là, vous voyez un comptoir, en plein milieu du désert, vous voyez un genre de comptoir, une table là, avec une grosse écriteau. C'est très gros. Et ça dit, voici la source inépuisable, éternelle, rafraîchissante et gratuite de l'eau vive de Dieu. Ici même, avec des flèches qui pointent ici. Alors là, vous arrivez, puis vous arrivez au comptoir, et là, vous dites au monsieur, auriez-vous une pelle? Le gars vous regarde, vous dites, une pelle? Pourquoi une pelle? Parce que j'aimerais ça creuser mon trou à côté pour me faire un puits pour aller chercher de l'eau. T'en as là. Mais tu ne demandes pas parce que toi, tu cherches ta propre solution. Tu veux régler le problème toi-même. Alors, tu demandes une pelle pour creuser alors que l'eau est là. Là, vous allez me dire, c'est donc bien ridicule, je ne ferai jamais ça. Laissez-moi vous poser une autre question. Laissez-moi présenter ça sous un autre angle. Peut-être que tu es célibataire et tu es tanné d'être célibataire. Puis c'est correct. Dieu a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu comprend ça. Dieu comprend ce que tu vis. Il comprend ce besoin-là qui est tout à fait légitime. Dieu ne critique pas le besoin. Et là, par exemple, tu es en attente. Ça fait des années que tu pries Dieu, tu demandes à Dieu de pourvoir quelqu'un dans ta vie. Tu cherches un compagnon ou une compagne, tu pries. Et là, tu sais ce que Dieu dit. Écoute, tu peux trouver quelqu'un, mais il faut apprendre à quelqu'un. C'est correct de te marier, mais marie-toi dans le Seigneur. Marie quelqu'un qui aime Dieu, etc. Toi, tu es en attente. Alors, tu t'en vas chercher quelqu'un, tu commences une fréquentation avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et après ça, tu tournes vers Dieu et tu dis, Seigneur, veux-tu bénir, s'il vous plaît, ma relation? Vois-tu, on trouve nos propres plans, puis après ça, on demande même à Dieu de bénir. C'est un peu comme le gars qui creuse son propre puits, à côté du puits, il creuse son puits, puis après ça, il demande, Seigneur, veux-tu bénir mon puits? Alors qu'il était là tout le temps. C'est la même chose. Et on fait la même chose dans d'autres domaines. Abraham a fait la même chose. Dieu avait promis à Abraham un enfant qui est un besoin légitime. C'est correct, c'est beau d'avoir des enfants. C'est super, c'est une bénédiction, la Bible dit. Et là, Abraham, Dieu vient voir Abraham et il dit, écoute, je vois ton besoin, je le sais, je vais te bénir, je vais te donner un enfant. Mais Abraham était tanné d'attendre la réalisation de la volonté de Dieu dans sa vie, que Dieu puisse combler le besoin qui était très légitime dans sa vie. Cette année, il a commencé à parler à son épouse, de voir, écoute, on va aider Dieu à exaucer notre propre prière. Hein. Puis il a commencé à négocier avec son épouse. Finalement, il s'est retrouvé avec sa servante. Ils ont eu un enfant avec la servante. Après, il se retourne de bord vers Dieu, puis il dit, Seigneur, veux-tu bénir mon enfant? Voici le miracle. Et Dieu dit, non, c'est pas ça le miracle. C'est pas l'enfant de promesse que je t'avais fait. Ta femme va tomber enceinte comme telle que je te l'avais dit et je t'avais promis. Ça a pris plus de temps, mais là, Dieu, sa femme est tombée enceinte. Mais vois-tu, Abraham était tanné d'attendre, sa femme était très âgée. Pourquoi attendre? On va régler le problème nous-mêmes. Savez-vous que ça a fait? Ça fait bien des problèmes. Vois-tu, quand tu essaies de régler tes problèmes toi-même, ça fait tellement des problèmes que même sa femme a été mébrisée par cette femme-là. Ils ont même eu des problèmes dans le couple et des problèmes dans la famille. Il y a eu du mépris parce que Abraham a voulu régler ses affaires lui-même dans la chair. Il faut attendre la bénédiction de Dieu. Parfois, c'est ça le test de la pression. La pression d'attendre que Dieu vienne régler le problème lui-même. Et vous vous trouvez peut-être en ce moment même sous la pression peut-être financière, et vous êtes tenté peut-être pour régler les problèmes très vite, de faire des choses qui ne sont peut-être pas 100% correctes. Plutôt que de passer le test de la patience et d'attendre que Dieu puisse vraiment combler ces besoins-là. Vous êtes en train peut-être de construire un puits qui ne retient pas l'eau. Quelques-uns parmi vous, vous vivez d'autres stress, d'autres pressions. Quel est l'antidote? L'antidote se trouve dans Ésaïe 50:10, deuxième partie du verset qui dit ceci. « Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qui s'appuie sur son Dieu. » Ça, c'est un test. S'appuyer sur Dieu. C'est un test. Lorsque vous êtes sous la pression et sous le stress, Dieu veut voir si vous allez vous tourner vers lui ou si vous allez vous tourner vers autre chose ou d'autres personnes. C'est un test. Allez-vous lui faire confiance? La première épreuve, donc, qui représente une belle occasion pour développer sa foi et qui va permettre à faire confiance en Dieu davantage afin qu'il bénisse notre vie encore plus, c'est le test de la pression. Mais il y a une deuxième pression aussi. C'est le test de la personne. Êtes-vous sous la pression des personnes? Êtes-vous des gens qui, autour de vous, qui mettent de la pression? Est-ce que c'est un test en ce moment? Êtes-vous éprouvé par des gens qui se trouvent autour de vous? Dieu sert souvent des gens autour de nous pour étirer, développer notre foi. Ce test pose la question, comment vais-je gérer la déception? Êtes-vous entouré de gens peut-être qui vous déçoivent? La vie est souvent décevante. Les carrières ne finissent pas toujours comme on l'avait prévu. Les mariages n'aboutissent pas toujours comme on l'avait espéré. Les plans, nos propres plans, ne finissent pas toujours comme on les avait planifiés. Soyons honnêtes, la vie est souvent décevante. Mais si on est honnête, la plus grande déception que l'on puisse connaître, c'est avec les gens. Pourquoi on est déçu avec les gens? On est souvent désappointé par les gens lorsqu'ils ne répondent pas aux besoins ou aux attentes que l'on a. Et parce qu'on s'attend qu'ils vont combler un besoin alors que seul Dieu peut combler. Vois-tu? Dieu n'a jamais eu l'intention d'imposer une telle responsabilité à une personne qu'il comble tous mes besoins. Ni ton mari, ni ton épouse, personne n'a ce fardeau et cette responsabilité de devoir combler tous tes besoins. Absolument impossible. Seul Dieu peut combler tous tes besoins. Et des fois, on est déçu dans notre mariage parce qu'on a des attentes irréalistes et qu'on s'imagine que notre mari ou notre épouse va combler tous nos besoins. On rentre dans le mariage, des fois, avec ça, avec cette attitude. Si seulement je peux me marier, tous mes problèmes seront résolus. Vrai? Hey, si seulement je peux trouver une femme, si seulement je peux trouver un homme, je n'aurai plus jamais de problème. Ah, si seulement ma femme était comme Madame Chose. Ah, si seulement mes enfants étaient comme Monsieur Chose, comme les enfants de Monsieur Chose. Hein? Ah, si seulement ma job était comme... Ou seulement je travaillais avec quelqu'un de différent. Et ça ne marche pas comme ça, hein? Des attentes irréalistes. Savez-vous comment je le sais? Parce que savez-vous que les problèmes qui reviennent le plus souvent chez les couples, il y en a 9. Les 9 problèmes qui reviennent le plus souvent chez les couples. Le premier, c'est quoi? Finance? Communication, hein? 85% des couples qui ont des problèmes de communication. Et les couples qui vont consulter, les problèmes qui reviennent le plus souvent, la deuxième, savez-vous, c'est quoi? Attentes irréalistes. Des attentes. Je m'attendais à ce que mon mari fasse ça, fasse ci, fasse ça, ou soit ceci, soit cela. Des attentes irréalistes. Viennent ensuite gérer les finances. Quatrième rang, relation avec les beaux-parents. Difficulté d'adaptation sexuelle. Gestion de la colère. Relation extra-conjugale. Conflit de rôle. Et neuvièmement, différence religieuse. Les attentes irréalistes viennent en deuxième. Déception. Ça, c'est un test. Hein? Mais les gens ne sont pas la source ni la solution à nos problèmes. Et j'ai besoin d'apprendre ça. La réponse à ton sentiment d'infériorité ne se trouve pas chez les autres. La réponse à tes craintes ne se trouve pas chez les autres. La réponse à tes découragements et tes sentiments dépressifs ne se trouve pas chez les autres. La réponse pour ta vie, qui semble même dépourvue de sens, peut-être, en ce moment, ne se trouve pas chez les autres. La réponse, frères et sœurs, est Dieu. Lorsque l'on s'attend à ce que les autres puissent nous sauver, on va être déçus. Ésaïe 2, 22, Dieu dit, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? » C'est fragile, ça. Si ton salut... Si ta délivrance relève de ton mari ou de ton épouse, tu vas être déçu. Mais c'est Dieu. Jérémie 17, 7 dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, pas les autres. Béni soit l'homme, béni soit la femme qui se confie en Dieu et dont l'Éternel est l'espérance. » Mets ton espoir, ton espérance en Dieu. Ésaïe 49, 23 dit « Ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. » Le mot dans l'original est très intéressant. Le mot « confus » peut se traduire par « désappointé » ou « déçu ». Ça, c'est intéressant parce que les autres vont te décevoir. C'est certain que les autres, un jour ou l'autre, vont te décevoir. Mais Dieu dit « Celui qui se confie en moi ne sera jamais déçu. » Jamais désappointé. Jamais. Vous savez la raison pour laquelle nous sommes désappointés? C'est parce qu'on met notre espoir en d'autres choses qu'en Dieu. À chaque fois qu'on est déçu, c'est une lumière rouge, un feu rouge qui laisse peut-être entendre que tu es en train de mettre ta confiance ou tes attentes sur autre chose que sur Dieu. Fais attention quand tu es déçu. C'est un test. C'est le test des personnes. Et certainement, s'il y en avait un qui avait compris ça, c'est l'apôtre Paul. Est-ce que l'apôtre Paul avait été déçu par des gens? Absolument. Intéressant ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 12, 7, lorsqu'il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations qu'il avait reçues, la parole de Dieu, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, Paul, car ma puissance, dit le Seigneur, s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus, dit Paul, de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais maintenant. » Ça, c'est une grande leçon à apprendre, hein, que l'apôtre Paul a apprise. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que quand tu es faible, tu te fies à Dieu. Et Paul avait appris qu'il pouvait faire confiance à Dieu. Et Dieu ne le déçoit jamais. Vous savez, à l'époque de l'Antiquité, les gladiateurs, et c'est un frère qui m'a partagé ça l'autre jour, on était justement au McDo, moi et ma femme, un frère me partageait ça, qu'à l'époque de l'Antiquité, les gladiateurs, et probablement les soldats romains aussi, portaient il y avait toutes sortes de costumes, des soldats et tout ça, l'armure. Puis un des costumes, c'était comme un genre de gant à l'intérieur, se trouvait comme du velours. Et puis, par-dessus, il y avait des lames, comme de couteaux, là, comme des lames. Et ça, c'était des écharmes que tu enfonçais dans la chair lorsque tu te battais. D'ailleurs, c'est intéressant que Paul va employer cette image-là. Il dit, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Il parle, évidemment, il y a des gens qui disent que l'écharpe dans la chair, c'est un problème physique, mais dans le contexte, il parle des gens là, qui le persécutaient, etc. Donc, ce serait peut-être plus naturel de conclure que l'écharpe dans la chair qu'il a reçue, c'était justement la pression des personnes autour de lui. Et il disait, c'était comme lorsqu'il rentrait cette écharpe, c'est intéressant ce qu'il va dire, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter. Dans l'original, c'est un coup de poing. Et ce que Paul, l'image qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a des gens, mon ami, avec qui je me sens comme s'ils me frappaient à coups de poing avec l'écharpe dans la chair, ce gant-là avec des lames qui me rentrent, et tu sais, ils viennent me chercher jusque dans mon cœur. Il y a des gens, des fois, qui se trouvent autour de nous autres, que Dieu permet que l'on passe à travers ce test des personnes pour justement entrer une écharpe dans la chair. Pourquoi? Afin qu'on se sente faible et qu'on puisse puiser de la force de Christ dans nos vies. Oui, certainement, test des personnes. Comment gérez-vous les gens qui vous déçoivent? Allez-vous accepter que Dieu sait ce qui est mieux pour vous et son plan qui est empreint d'amour? Et que même les déceptions de votre vie ont un but positif? Que tu le comprennes ou pas, il y a un but positif derrière les déceptions. C'est un test. Allez-vous faire confiance à Dieu, même pour les désappointements de votre vie, les déceptions de ta vie? Vas-tu faire confiance à Dieu? C'est une décision que nous avons besoin de prendre ce matin ici. En quittant ce lieu ce matin, on a besoin de dire au Seigneur, par la foi, Seigneur, à partir de maintenant, même les déceptions de ma vie, même peut-être les tests des personnes que tu envoies autour de moi, ou même la pression que je vais subir pour X raisons, c'est des tests parce que tu veux tirer ma foi, tu puisses me fortifier. Alors, les épreuves représentent une belle occasion pour développer sa foi et nous permettre de faire confiance en Dieu afin de jouir de ses bénédictions. Premièrement, le test de la pression. Deuxièmement, le test des personnes. Et troisièmement, le test de la persévérance. Vais-je tenir à mes engagements? Vous savez, la vie, c'est de prendre des engagements. Votre vie va prendre la couleur de vos engagements, les engagements que vous avez pris. Nos engagements forgent notre caractère, notre succès, et même vont avoir un impact sur même les récompenses éternelles que nous allons recevoir. Alors, on a besoin, chacun d'entre nous ici ce matin, de déterminer très sérieusement Quels seront nos engagements? Les engagements qu'on veut prendre. Ce à quoi tu t'engages va déterminer ce que tu vas devenir. Les décisions que tu prends aujourd'hui vont déterminer ton avenir. C'est sérieux, hein? Si vous voulez acquérir quelconque habileté ou maturité, on a besoin d'apprendre, apprendre et à garder nos engagements. C'est comme le piano. Tu ne peux pas, ça n'arrive pas tout seul. Tu ne t'assois pas devant le piano, commencer à jouer, puis devenir un grand joueur. Ça n'arrive pas. Il faut que tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques, tu prends l'engagement de jouer le piano. Bien, c'est dur. Parce qu'il y a des heures et des heures et des heures de pratique. C'est toute une décision de dire, moi, je veux jouer le piano. C'est tout un engagement, ça. Mais c'est des heures et des heures de pratique. Et un jour, tu commences à jouer, puis tu t'aperçois, c'est beau, c'est un chef-d'œuvre. Si tu peux faire un concert, bien, chaque personne qui va faire un concert, qui joue, là, ils sont habiles. Quand on entend des pianistes ici en avant, on aimerait ça aller s'asseoir puis jouer comme eux autres. Hein? On aimerait ça juste peser sur un piton puis être capable de jouer comme eux autres. Ça ne marche pas comme ça. Imaginez-vous toutes les heures en arrière. Je pense à Esther. Combien? Des heures, des années. Ça fait combien d'années que tu joues du piano? Ou du violon, dans ton cas même. Hein? Tu as joué du piano tantôt, mais le violon, combien d'années? 12 ans de violon. Alors, elle prend son violon. Laissez-moi vous dire, si elle me passait son violon, puis j'allais jouer en avant. Mais on ne veut pas l'enlever. Quand Esther joue, on veut l'entendre encore plus. C'est tout un engagement. Vous savez, Robert Goulet, qui jouait de la guitare pour la télévision, Canal 10, s'est converti, devenu chrétien, puis tout, il est rendu à temps plein. Maintenant, il aide l'église à Boisbriand, dans le Nord, pour partir, à démarrer cette église. C'est un joueur de guitariste, un joueur de guitare. Et il dirige encore la louange dimanche matin. C'est lui qui joue la guitare, dirige la louange. Savez-vous, il n'est pas obligé de faire ça. Il a joué la guitare toute sa vie. C'est un maître guitariste. Pendant que tout le monde prenait des vacances l'été quand il jouait pour le Canal 10, tout le monde était dans les bateaux, etc. L'été, lui passait ses étés à pratiquer les heures, 4 heures par jour. Incroyable. Savez-vous qu'encore aujourd'hui, il n'est pas obligé de faire ça, là. Honnêtement, tu sais, jouer pour le dimanche matin et tout ça, là, il pourrait relaxer puis dire, bon, je la connais, cette toune-là. Parce que quand c'est que là, ça fait peut-être 300 fois que je le joue. Honnêtement, il jouerait puis il nous impressionnerait pas mal. Mais savez-vous qu'il se lève encore à 5 heures du matin pour pratiquer? Dimanche matin, là. 5 heures du matin pour pratiquer ses doigts et ses mains, pour développer encore et garder la dextérité de ses doigts et ses mains, pour que la louange soit encore mieux. Imagine, l'engagement. Lui a dit, moi je m'engage à aider l'Assemblée, accompagner l'Assemblée à donner la louange à Dieu. Est-ce qu'il a pris au sérieux son engagement? Et quand on pense ici, savez-vous que ceux qui nous dirigent ici, puis ceux qui se pratiquent ici, qui viennent nous accompagner en louange, viennent un soir par semaine, puis des fois des heures, chez eux, puis tout, faire des arrangements. Quel engagement! Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Mais Dieu dit en retour, tu vas avoir des bénédictions pour recevoir. C'est cet engagement-là que tu as pris. Quelques-uns qui sont ici ce matin même, peut-être que vous êtes dans le test de l'engagement. Peut-être vos vœux de mariage en ce moment sont présentement testés. Est-ce que ce sera vraiment jusqu'à ce que la mort nous sépare? Votre intégrité personnelle est peut-être ce qui est testé en ce moment. Parce que tu sens la pression, tu sais quoi faire, mais peut-être que tu vas choisir la solution facile et rapide. C'est un test de ton caractère. Ecclésias 5,4 dit « Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas pour l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. » Vois-tu? Même pour Dieu, c'est important que quand tu prends un engagement, là, tu le réalises. C'est sérieux. Dieu prend ça au sérieux. Prends pas ça à la légère. As-tu pris un engagement envers Dieu que tu as de la misère à tenir et à garder? As-tu pris l'engagement peut-être de lire la parole de Dieu à chaque jour, méditer, passer du temps en prière à chaque jour avec Dieu? As-tu pris un engagement peut-être de t'impliquer dans l'Assemblée, peut-être d'aller dans les cellules de prière les mercredis soirs à l'Assemblée maison? Peut-être t'engager dans un ministère ici, puis tu tardes. As-tu pris l'engagement de soutenir financièrement l'Église à chaque semaine, de donner ta dîme et ton offrande à chaque semaine? As-tu gardé cet engagement-là que tu as fait secrètement dans ton cœur avec Dieu? Dieu veut que tu gardes ton engagement. Il veut t'aider à le faire. Fais-lui confiance. C'est un test de l'engagement. Psaume 15,4 dit, « Dieu bénit celui qui fait une promesse difficile à tenir et la tient. » Dieu bénit celui qui fait une promesse difficile à tenir et la tient. Dieu bénit ces personnes-là. Ça, c'est le genre de personne que Dieu bénit. Et c'est un test. Le test de la pression, le test de la personne, le test de la persévérance. Ces tests représentent de belles occasions pour développer sa foi. Mais il y a aussi le test des priorités, qui pose la question, qui sera le premier dans ma vie? L'une des plus belles promesses de la Bible est en regard à ce test qu'on retrouve dans Matthieu 6, 31, qui dit ceci. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les incroyants qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Connaît nos besoins, Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus ça. » Vois-tu? Mets le Seigneur à la première place dans ta vie. Puis tu vois, le Seigneur va s'occuper de tout le reste. Dieu a promis de rencontrer tous tes besoins si tu le mets à la première place dans chaque domaine de ta vie. Voici trois questions à te poser si jamais tu poses la question. Comment je sais si vraiment Dieu occupe la première place dans ma vie? Comment savoir ça? Il y a trois questions qu'on peut se poser qui vont nous aider. Premièrement, à quoi je pense la plupart du temps? Dans mes temps libres, à quoi je pense? Ce à quoi vous pensez le plus, c'est ça qui est le plus important dans ta vie? Ouais, c'est logique aussi. Où va mon argent en premier? Matthieu 6, 21 dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ça révèle tes priorités. Troisième question, qu'est-ce que je fais avec mon temps? Pensez juste un instant à ce qui représente votre plus grand besoin. Arrêtez-vous juste un instant là, et pensez à ça. Quel est votre plus grand besoin? En ce moment même, là, dans votre vie, peut-être un besoin financier, peut-être matériel, peut-être émotif, peut-être physique, peut-être vous êtes malade. Quel que soit votre plus grand besoin, en ce moment même dans ta vie, pensez-y là. Pensez à ce besoin-là, et laissez-moi vous poser une question. Lequel des quatre tests Dieu est-il en train d'éprouver de façon de lui faire confiance par le besoin qu'il est en train de connaître? Êtes-vous en train de passer le test de la pression? Est-ce que le besoin, le plus grand besoin que tu as dans ta vie en ce moment, met une pression sur tes épaules? Est-ce que tu es en train de passer à travers le test de la pression? Le test des personnes? Est-il quelqu'un dans ta vie en ce moment qui te rend vraiment la vie difficile? C'est le test des personnes. Le test de la persévérance? Est-ce que c'est le test des priorités? Vous dites peut-être, ah, moi, je ne suis pas capable de passer le test. Je suis pas capable, trop difficile. Je suis épuisé. Je suis allé combattre. Je ne suis pas capable de tenir le coup, mais laisse-moi te donner une promesse dans Ésaïe 35, ça qui est justement pour toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Si vous revenez à moi, et si vous restez tranquille, c'est bien dit, hein? Revenez avec moi, là. Revenez à moi, puis reste tranquille. Vous serez sauvés, vous serez délivrés, car c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Peut-être ce matin, tu as besoin de revenir au Seigneur. Peut-être tu es en train de passer ces tests-là, mon ami, tu as la misère à tenir le coup, puis tu as besoin de revenir au Seigneur, ça presse. Tu as une décision de foi à prendre, de Seigneur, moi je veux revenir à toi, je passe à travers ce test-là. Et Dieu bénit cette décision-là. Dieu aime voir ses enfants passer le test. Jacques 1,12 dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Béni, heureux l'homme et la femme qui supporte patiemment la tentation. Parce qu'après ça, il y a une couronne qui s'en vient. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Que ça vaut la peine de tenir le coup, vrai? Ça vaut la peine de tenir le coup à travers l'épreuve parce qu'il y a une couronne qui s'en vient. Et la couronne de vie, c'est quoi? C'est la bénédiction. C'est tout ce que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous gâter, nous bénir. La couronne de vie, c'est un symbole des bénédictions qu'il veut déverser sur chacun d'entre nous. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est une façon de dire, moi, la personne qui passe à travers ces tests-là, qui me fait confiance, en faisant confiance, va être béni jusque dans l'éternité. Dieu est en train de nous dire, moi, je vais pourvoir à tes besoins. Puis, non seulement ça, je vais même te donner des récompenses éternelles. Larry Hoffman est allé dans un comptoir vestimentaire pour aller chercher une chemise pas chère. Vous savez, les comptoirs vestimentaires, tu peux aller chercher des chemises usagées. Déjà porté tout ça. Fait que c'est un gars, Larry Hoffman, il s'en va dans justement un comptoir de vestimentaire, il s'en va chercher une chemise, il cherche une chemise, il regarde, puis il a trouvé qui autre. Alors, il l'a acheté, il a pris la chemise, il s'en va chez eux avec. Puis d'un coup, il a pas de place pour l'essayer dans le magasin, fait qu'il l'amène chez eux. Il essaye la chemise. Il est tout content de son achat, il va payer cher, une coupe de scène. Fait que, mais la chemise, elle fait pas. La chemise fait pas. Fait qu'il dit, ça n'a pas de bon sens. T'as pas bien dedans, puis ça, serré, puis ça, vraiment pas bien dedans. C'est quelque chose qui te fait pas, là. Là, il regarde, ça n'a pas de bon sens, celui-là, je vais la retourner. Fait que là, il défait la chemise, puis là, il y avait une poche, puis il y avait quelque chose, il remarque qu'il y avait quelque chose dans la poche. Il met sa main dans la poche, puis il regarde, puis il y avait un paquet d'argent là-dedans. 2 000 $.
La chemise a coûté quoi? 25 cents? Ben, s'il a fait, c'est en beau magasin. Mais écoutez, il faut absolument vous puissiez trouver le gars qui appartenait à la chemise. Il y avait de l'argent dedans, 2000 piastres là-dedans. Alors, ils ont fait des recherches, puis des recherches, ils n'ont jamais trouvé à qui ça appartenait à la chemise. Alors, il est allé à la police. C'est un gars vraiment honnête. Il est allé à la police, il dit, écoutez, j'ai acheté une chemise dans un comptoir vestimentaire pour regarder trouver à qui ça appartenait. Il dit, là, il y a 2000 $. S'il y a quelqu'un qui vous téléphone, il vous demande s'il y a une chance, même sur 10, que quelqu'un fasse la demande. Moi, je veux lui remettre. Et ils ont une loi aux États-Unis qui dit ceci. Lorsque 90 jours, quand ça fait 90 jours que personne réclame ce qui a été perdu, c'est à toi. Alors, le gars s'est ramassé avec un 2000 piastres. Mais c'est une chemise qu'il ne faisait pas. Vous savez, des fois, le Seigneur t'envoie des chemises, d'épreuves et de situations dans ta vie qui ne fêtent pas avec tes plans. Des épreuves que tu n'aimes pas, puis ça, c'est vraiment pas bien, tu n'es pas bien là-dedans. Mais toi, tu te casses la tête à cause de la chemise. Tu t'arrêtes parce que ça ne fêtent pas avec tes plans. Alors que dans la poche, il y a une bénédiction que Dieu en réserve à travers cette épreuve-là et cette situation-là. Regarde pas la chemise! Laisse faire la chemise! Regarde la poche! La bénédiction de Dieu qui est en arrière de cette épreuve-là que Dieu est en train de préparer et qu'il veut te donner. Mais nous on s'arrête sur la chemise. La chemise n'est pas importante. L'épreuve, la difficulté, les tentations, les tests, c'est pas important. Qu'est-ce qui compte? C'est la couronne de vie qui s'en vient après. Amen. Alors, es-tu prêt ce matin à partir d'ici, Seigneur, en voyant les tests? En voyant les épreuves, parce que je sais qu'à mesure que tu envoies mes épreuves, ma foi va grandir, va se développer, je vais être musclé, je vais être le Arnold Schwarzenegger de la foi. Amen! Ah, que le Seigneur nous aide. Prions, Seigneur. Ah, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole si encourageante. Et nous voulons, Seigneur, nous voulons que tu puisses exercer notre foi, que nous puissions grandir dans notre foi. Et oui, Seigneur, nous savons que le moyen de grandir dans cette foi, c'est le vélo des épreuves. On a besoin de passer à travers ces exercices de la foi qui sont ces tests. Parfois, tu permets, Seigneur, que ces tests, ce sont des tests de pression. Et on comprend pourquoi, mais on a la pression sur nous. Même si on veut fuir, toi, tu dis, ne fuis pas, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, j'ai préparé ta délivrance. En même temps, Seigneur, parfois, il y a des gens autour de nous, peut-être même notre épouse ou notre époux, qui nous déçoivent et nous sommes en train de passer le test des personnes. Peut-être le test, c'est le test des engagements, de la persévérance et aussi de la priorité. Aide-nous, Seigneur, lorsque tu nous envoies ces épreuves et ces tests, nous voulons te faire confiance. C'est tout ce que tu demandes, qu'on te fasse confiance. Apprends-nous à te faire confiance. Et nous prenons cette décision par la foi ce matin, que cette semaine, quels que soient les tests que tu vas nous envoyer, nous allons te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît.
Juste avant, suite justement à la prédication, ça me rappelle un peu, disons, ce que je vis. Ben, c'est un couple de fois que je raconte, juste un recap, une récapitulation, excusez. Justement, parce qu'avant, j'avais un emploi stable. Les projets étaient fixes, on savait où on s'en allait, tu sais, ça allait bien. Puis comment est-ce que, quand j'ai Dieu a permis l'épreuve, j'ai perdu mon emploi. J'étais sur de maladie ou whatever, en tant